Tu lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
C'est mon heure. Moi, enfin. Moi, l'aimée, la belle, la puissante. Moi, moi, moi. À son tour, le roi meurt. Me voilà seul avec Blanche-Neige que j'éloigne de mes quartiers. Je ne veux plus la voir, car à chaque fois que je la croise, une douleur me saisit. Mais un miroir magique me dit tout. Qui est la plus belle? Qui? Un jour, le miroir me tuera. Ce jour maudit où il me répondra « Vous êtes très belle, mais désormais Blanche-Neige vous dépasse par sa beauté. » Ô lune, ciel, glace, firmament, ce jour est arrivé. Dressé sur la pointe des pieds, face à la mort programmée, je pousse le plus terrible des cris. Mon visage prend la couleur d'une âme desséchée. Mourir ou tuer. Désormais, ce sera l'une ou l'autre. Les merles chantent. Mon cœur est une boule de terre. Je suis barbu. Je suis recouverte d'épines. Je suis une griffure de ronces. Quel texte. Quel texte d'introduction pour ce nouvel épisode d'On lit quoi nous. Bonjour Véronique.
Bonjour Monsieur Simon.
Bonjour Philippe qui fait le son. Je vous ai lu un extrait pour introduire cette émission d'Adieu Blanche-Neige de Beatrice Alemagna. Et ça fout la foisse, n'est-ce pas?
On dirait que c'est la reine qui parle.
C'est complètement la reine. On en reparlera de cet album qui est un de mes gros coups de cœur de ces dernières semaines. On reparlera évidemment de Beatrice Alemagna. Je crois que vous avez aussi un autre album à nous présenter.
Oui.
En tout cas, nous voici encore une fois dans ce doux mois de décembre pour la 37e émission d'On lit quoi nous, l'émission qui parle de toutes les littératures jeunesse. Je suis encore évidemment avec Véro. Et nous allons vous parler de plein de livres que nous avons appréciés ces dernières semaines.
Ça ne s'arrête jamais.
Voilà, des livres pour les petits, des livres pour les grands. Et puis, comme d'habitude, des livres musicaux. Et on va commencer en musique avec le nouvel album de Pascal Parisot. C'est encore un super chat. C'est le retour de Super Chat. On écoute le plus beau.
C'est qui le plus beau? Qui c'est le plus beau de tous les animaux? C'est pas l'orang-outan, c'est pas l'éléphant. Qui c'est le plus beau des habitants du zoo? Le plus beau c'est Peter le Pan. Qui c'est le plus beau qui sait qu'on prend en photo bien avant l'ours blanc et le pélican? Qui c'est le plus beau avec ses plumes dans le dos? Le plus beau c'est Peter le Pan. C'est lui le plus beau. C'est lui le plus beau. C'est Peter le Pan. Au pays des pans, y a des pans bleus, y a des pans blancs. Mais le plus beau des pans, mais le plus beau des pans, le plus beau des pans, parce que ça dépend des pans. Le plus beau c'est Peter le Pan. C'est lui le plus beau. C'est lui le plus beau.
Mais oui, c'est lui le plus beau, Peter le Pan.
On dirait du De Vos.
Non, mais on dirait, mais c'est Parisot, il adore jouer avec les mots, il adore jouer avec la langue, il adore jouer aussi avec la musique. C'est un excellent musicien avec tout son groupe. Et là, effectivement, nous allons retrouver, c'est le grand retour de Super Chat. Donc, cette fois-ci, il va y avoir donc Peter le Pan, il va y avoir Fiat, le panda.
Fiat?
Le panda. Fiat panda.
Fiat. Fiat, panda. Voilà.
Et puis, 1, 2, 3, le Ouistiti, qu'on écoutera tout à l'heure. Ouistiti, tous les trois vivent dans le zoo et adorent se balader dans les allées du parc. Mais ce soir, Peter le Pan a disparu. qu'est-il devenu ?
Suspense.
Et voilà, donc on va laisser évidemment un message à Super Chat pour venir les sauver. C'est la mission que va relever évidemment Super Chat, ce chat magnifique, ce chat super-héros qu'on retrouve avec beaucoup de bonheur pour cette nouvelle aventure. Alors, il y a dans ce livre, il y a évidemment toujours la petite histoire qui est racontée par Pascal Parisot, et puis une dizaine de morceaux qui sont composés par lui exactement, donc comme le premier que nous venons entendre, le plus beau. Allez, on va en écouter d'autres dans... dans le reste de l'émission. Allez, un petit point sur l'actualité rature de la jeunesse. Oui, comme d'habitude. Et là, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, là, qu'est-ce que c'est? En ce moment, nous sommes dimanche.
Nous sommes dimanche.
C'est
nous
la fin du
salon de Montreuil.
Oui, bien joué. Allez, on se remet un peu dans l'ambiance.
Ils sont arrivés très tôt, ont fait un petit tour de salon, puis se sont installés par terre, un livre à la main, oubliant complètement téléviseur, jeux vidéo, parfois même ce qu'il se passait autour d'eux. Le chapiteau de Montreuil se transforme en une très grande bibliothèque pour enfants.
Des BD, des romans, puis c'est tout.
Cendrillon, La Belle et la Bête, et tout comme ça, les trucs, les petites bandes dessinées.
Tu préfères la télévision ou lire ?
Lire.
Et pourquoi ?
Parce que ça instruit.
Nous sommes donc en 1984. C'est un reportage de FR3.
Le son est vintage.
Voilà, ça doit être FR3, Île-de-France, je pense. Et c'était 1984, c'est le lancement, c'est le premier salon du livre. Exactement,
à
de Montreuil. Eh oui, tout à fait.
Dans donc, la ville de Montreuil.
Oui, donc ça lui fait 37 ans.
Bah, comme notre émission.
Comme notre numéro d'émission.
Ah
oui, c'est vrai, c'est la 37e. Ouais. Et bah, eux aussi, c'est leur 37e. Voilà.
On est bon.
Effectivement, le Salon Montreuil a lieu cette année, et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà, ça faisait l'année dernière, il n'avait pas eu lieu. Donc là,
il avait eu lieu
en visio.
En visio.
Alors, ce qui est bien, c'est que cette année, donc, il a eu lieu en vrai. Enfin, il a lieu
en
vrai. Et en plus, il y a de la visio, puisqu'il y a plein d'émissions à regarder. Ils ont relancé l'émission de télé en direct.
Oui, la télé de Montreuil.
Donc, vous pouvez regarder encore, là, aujourd'hui et demain, les différents programmes.
Mais je pense qu'il reste.
C'est de 17h à 20h. Voilà.
Sur YouTube.
Et après, vous pourrez les regarder en replay. Voilà. Il y a aussi plein de librairies qui ont accueilli des auteurs pour ce salon-là. En tout cas, ça fait du bien de retrouver ce salon. Qui est un peu, même si c'est devenu une grande foire commerciale, c'est aussi quand même le moment où on peut rencontrer les auteurs, les éditeurs qui forment la richesse de la littérature jeunesse.
Il y a plein de petits moments magiques au milieu du commercial.
Alors, on va tout vous dire. Nous n'y sommes pas allés. Mais par contre, moi, j'ai déjà vu plein de photos sur les réseaux.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a plein de stands qui ont l'air super. On pense à Nous Fourmis Rouges.
Oui.
On parle, voilà.
Oui.
À Enquête du Grand N'importe quoi de Tom et Nathan Lévesque. Voilà. Les stands ont l'air super. Ils ont créé une carte, apparemment.
Du Grand N'importe quoi ?
Oui, non, c'est pas ça le titre. Du Grand Peut-être. N'importe quoi. C'est moi qui dis n'importe quoi. Enquête du Grand Peut-être. Et ils ont créé, en fait. Une carte de la littérature ado.
Où vous pouvez aller.
Ouais, non,
Tom et
Nathan. Voilà, c'est ça, tout à fait.
Et donc pour se repérer.
Exactement, dans cette littérature.
Ils ont fait ça.
Ouais.
Un truc holistique, là.
Donc on va essayer d'en récupérer, comme pour vous en parler, parce
même.
Que ça a l'air trop bien. À Montreuil, c'est aussi évidemment les pépites de Montreuil.
Et oui.
Hein, tous les ans, elles sont données.
J'en connais une.
Mais avant la pépite, même, il y a quelque chose d'autre. Il y a la Grande Ourse. La Grande Ourse, c'est le grand prix qui est remis en fait. Et cette année, on est trop contents. C'est Lucie Félix qui l'a eu.
Ah oui.
C'est Lucie Félix.
Ah oui. Ah oui, c'est bien.
Donc Lucie Félix, si vous ne la connaissez pas encore, c'est que déjà vous n'écoutez pas cette émission,
oui, hein,
parce
bien.
Que je pense qu'on vous a présenté à peu près tous ses livres. Et elle avait commencé avec Deux yeux, et puis après elle a fait plein de livres tellement bien, La promenade de petit bonhomme, Coucou, voilà. Enfin, il y en a 7 en tout. Voilà. Mm. Donc je vous invite vraiment à les découvrir. Et puis sur chaque livre, elle réinvente la manière de raconter des histoires pour les tout petits. Et on sait combien c'est dur. Et puis en plus, elle est chez un très bel éditeur qui s'appelle Les Grandes Personnes. Mm-hmm. Donc on est très 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 heureux.
Oui. Hein oui, ben maintenant je suis très très heureuse. Hein que je
vous
le sais.
Saviez pas, mais quand vous le savez, maintenant vous le savez.
Maintenant voilà. Voilà.
Donc Lucie Félix, La Grande Ourse, et puis les pépites, les autres pépites. Donc vous savez qui récompense donc les ouvrages alors qui mettent en lumière l'originalité, la diversité et la qualité de la création de l'édition jeunesse.
Il y en a 4.
C'est beau hein, ce titre. Il y en a 5 en tout.
5
Parce qu'il y a la pépite d'or.
Ah, la pépite d'or, c'est celle que je connais.
La pépite d'or, c'est...
j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà.
La pépite d'or, c'est Queen Kong,
oui,
d'Hélène Vignal.
Oui.
Et là encore, on est très
content. Je suis au milieu de la lecture et c'est...
Ah, vous êtes en train de le lire.
Oui,
ah,
oui, oui.
C'est bien,
oui,
hein.
Oui, c'est super bien. C'est quand même en plus audacieux de récompenser cette collection.
Bah,
de
c'est le principe des pépites. Hein.
Oui,
parce que c'est vrai. Et le Queen Kong, c'est un livre dans la collection L'Ardeur de Thierry Magnier, dont on a déjà parlé ici. La collection L'Ardeur, c'est une collection pour les plus de 15 ans qui veut... parler des choses du corps, de la sexualité, de la sensualité, mais de manière littéraire. Et c'était
c'est de la littérature érotique, si on veut, mais dans avec une
et
qualité
pas que, voilà, c'est
pas
ça,
que
qui parle en fait de la
sentimentale érotique
et notamment celui d'Hélène Vignal parle de plein d'autres choses.
Oui, hein, tout à fait.
En tout cas, c'est un très très beau roman court, hein, un court roman,
en plus. Voilà. Oui, oui, oui.
Mais
oui,
mais qu'on vous conseille fortement. Et puis après les autres prix, bah il y avait en fiction ado, c'est Polly. Polly, c'est un roman graphique de Fabrice Melchiot et Isabelle Pralong, publié à La Joie de Lire. C'est un roman graphique absolument génial, très très beau. Avec, le travail d'Isabelle Pralong a été vraiment très beau. Et le texte de Fabrice Melchiot, qui est un dramaturge, voilà, très connu dans le milieu de la jeunesse, est vraiment très très chouette aussi. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce texte-là. En bande dessinée, alors pareil, on est très content parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien, c'est Magali Lehuche qui a gagné chez Dargo avec Nowhere Girl, qui est la BD qu'elle avait fait autour de son enfance, de sa phobie scolaire et de son amour pour les Beatles, qu'elle raconte. Voilà, c'est une BD très touchante, très intime. Voilà. Ensuite, en fiction junior, c'était Les filles montent pas si haut d'habitude, d'Alice Buteau et de François Ravard, qui est un très beau texte aussi, plein de sensibilité.
Et chez qui ?
On est chez Gallimard, jeunesse.
D'accord.
Et puis le dernier, c'est un grand livre illustré, un peu pop-up, qui s'appelle Esprit, es-tu là ?
De
Dominique
Erard
et Anne-Florence Lemasson, comme quoi. Et c'est publié aussi chez...
Ouais,
tout à fait.
Pueblos.
Pueblos. C'est ça. C'est publié chez les grandes personnes. Donc voilà, on a encore une très très belle moisson de pépites. Hein. Donc vraiment, vous pouvez aller découvrir ces très beaux albums et ces très beaux romans. Vous n'en serez que satisfait.
Et vous savez qui il y a dans le jury ?
Oui, il y a plein de très très belles personnes. je sais qu'il y a Michel Abesca de Télérama, il y a Raphaël Bott de Lire, il y a Sophie Van der Linden. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont resserré vraiment j'ai regardé justement le jury et je trouve qu'ils ont vraiment resserré Sylvie Vassallo et son équipe autour de personnalités du milieu de la littérature jeunesse.
D'accord.
C'est-à-dire qu'avant il y avait toujours des gens de la littérature jeunesse, mais aussi d'autres personnes. Et là, je trouve qu'il y a vraiment plus que des grands spécialistes, donc la sélection elle est nickel. Nickel. Voilà. Allez, on commence nous aussi à parler de livres
un petit peu.
Bon, en même temps, on a déjà commencé un petit peu. Oui. Et on va commencer par les plus jeunes avec un album que j'ai trop aimé. Cet album, c'est une autrice moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Delphine Bournet, qui est publiée à l'École des loisirs pour la plupart de ses textes. Et c'est toujours des textes avec un humour vraiment, vraiment que j'adore. Notamment, elle a fait notamment la série Grignotin et Mentalo.
Oui. Hein, voilà. Ah oui. À l'École des loisirs.
Voilà. Et son dernier album s'appelle Dans la forêt sombre et profonde. Et on va sur la couverture, c'est assez mystérieux. On a une forêt sombre et profonde. Mmh. Et puis on a des yeux. On a 9 petites paires d'yeux qui nous regardent comme ça, de manière un peu gentille. Puis ça donne ça. Dans la forêt sombre et profonde, des yeux s'ouvrent. Dans la forêt sombre et profonde, des crocs s'entrechoquent. Dans la forêt sombre et profonde, des hurlements déchirent la nuit. Aouh ! Aouh ! Aouh ! Non mais ça ne va pas à la tête, qu'est-ce que c'est que ce boucan ? Vous avez vu l'heure ? Vous dérangez tout le monde dans la forêt sombre et profonde. Ah ! Maman ! Maman ! Voilà maman !
Elle a un beau pyjama, maman.
Qu'est-ce que vous avez à brailler comme ça ?
C'est que... on n'a pas eu de bisous.
Le bisou, le bisou, le bisou. Comment ça, vous n'avez pas eu de bisou? Vous plaisantez ou quoi? Bien sûr que si, vous avez eu un bisou.
Ah bon? Mais alors on n'a pas eu l'histoire.
L'histoire, l'histoire, l'histoire. Ah si, vous l'avez eu l'histoire.
Et les bobos, maman, tu nous les as déjà soignés?
Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. Déjà soignés. Et la chanson, on l'a eu?
La chanson.
Ah non, crotte de bouc, la chanson. Ah, mais oui, c'est vrai, vous n'avez pas eu la chanson. Alors, ça vous ferait plaisir une petite chanson avant de dormir, c'est ça? Ben oui. Mais on est bien d'accord, après la chanson, c'est au lit et plus un bruit, hein.
D'accord, maman. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu.
Dans la forêt sombre et profonde, on n'entend plus rien que les petits bruits de la nuit. Crac. Vous n'avez pas le texte, mais franchement, vous n'avez pas l'image, mais franchement, cet album, c'est un bonheur, franchement.
Moi, je le vois à l'envers, mais il est bien.
Ah oui, non, tout l'image, le texte, enfin tout, l'ensemble, là vous avez vraiment que le son, mais c'est un album qui est un bonheur à lire, vraiment je vous le conseille, dans la forêt profonde.
Il est très cinématographique.
Ah, il est complètement cinématographique.
On dirait un dessin animé
mais
sur
c'est
page.
C'est ça, et puis le dessin de Delphine Bournet, il est génial. La tête de la mer, en fait, pour vous expliquer, en fait, vous avez à gauche donc, la partie avec le texte et la mer, donc, qui a un très beau pyjama, effectivement, et puis à droite, donc, on retrouve ses yeux, ses paires d'yeux, on rajoute les dents, et là on comprend que c'est les petits louveteaux qui sont là, et qui évidemment ne veulent pas se coucher.
Faites des louveteaux, tiens.
Exactement. Voilà. Ah putain, j'avais un deuxième album, comme on est encore dans la nuit, hein, parce que on était. Voilà. C'est le nouvel album d'Anne Croza. Anne Croza, pareil, c'est qu'elle est encore une autrice qu'on adore.
Mémo Nantes.
Exactement. Publié chez Mémo, tous ses albums.
Ah, par contre, c'est sombre, là, pour une fois.
Et
nous
oui,
a habitués à la lumière.
Oui, mais on est dans la nuit.
On est dans la nuit.
Cet album s'appelle Une nuit au jardin. Et c'est un album qui est beau, qui est beau, qui est. Voilà, tout en délicatesse et tout est ennui. Voilà, c'est ça. Et on va suivre le parcours d'une petite luciole qu'on découvre. Cette petite luciole, évidemment. Voilà, c'est ça, on voit la lumière. Et cette petite luciole, forcément, elle va faire plein de choses pendant cette nuit. Donc, on va la suivre pendant ses déambulations à travers la nuit. Il va y avoir plein d'autres animaux qu'on va découvrir. Donc, c'est aussi une découverte des insectes. On allume une lampe de poche et on voit plein de sauterelles qui sont en train de jaillir, des papillons. Voilà, donc, c'est une vraie découverte aussi des petites bêtes de la nuit.
Oui.
Et puis, avec ce fil conducteur qui est la luciole qu'on va suivre à travers ces images, je trouve que dans le travail d'Anne Croza, cet album, on retrouve évidemment son travail, on retrouve son trait, son dessin très très beau. Mais je trouve que dans la composition de l'album et dans les différences de nuances entre ces différentes pages, la page du brouillard, par exemple, est magnifique. On dirait vraiment qu'il y a du calque, en fait, mais non, ce n'est pas du calque. En tout cas, on va aller jusqu'au lever du soleil.
C'est beau.
Et cet album est une vraie ode à...
C'est comme si elle nous offrait une nuit dans la forêt.
Mais oui, c'est ça. C'est exactement
danger,
ça.
Sans danger, sans le froid.
C'est ça.
Sur le livre. Dans
donc
le livre.
C'est vraiment un très, très bel ouvrage. Ça s'appelle Une nuit au jardin d'Anne Croza chez Mémo. Et on vous le conseille également. Je crois que vous avez aussi un coup de cœur.
Et oui.
Vous allez nous en parler un petit peu, puis après, on va l'écouter.
Alors, c'est un coup de cœur qui vient après un très, très, très grand coup de cœur d'il y a 15 ans.
20.
Je ne sais plus. Non, au 20.
Allez, 15. Allez,
15. C'est... Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Bou et les trois ours qui...
On pourrait ne pas s'en rappeler.
Voilà, qui a réjoui énormément de lecteurs et lectrices à voix haute, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de plaisir à lire cet album et ce conte. Et là, Elsa Valentin revient avec un texte comme elle sait le faire, c'est-à-dire en mélangeant différentes langues du monde. Un texte qui s'appelle Gallinella, petite poule rossa, illustré par Floride Saint-Val chez Cyros, comme Bou et les trois ours.
Non, Bou et les trois ours, c'était chez l'atelier du poisson soluble.
Oh, pardon.
Nos copains de l'atelier du poisson soluble, quand même.
Oui, oui. Et donc, comme Bou et les trois ours, Gallinella, c'est un conte détourné, c'est une version détournée de la petite poule rousse. En plus, la version, elle est extraordinaire.
C'est quoi ? Je vous propose qu'on en écoute tout de suite un extrait, c'est le début du texte, et puis on en reparlera après.
Gallinella, petite poule rousse. Un soir, une petite poule qu'on n'avait jamais vue posa son baluchon dans la cour de la farm. Les animaux y la saluèrent. « Hola, salam, hello, kalaharei, merhaba, inisogoma. » La poule s'inclina et débita tout un charabia. La chatte mousse, qui était savante, expliqua que cette poule avait fait un long viaggio, qu'elle demandait l'hospitalita et qu'elle se nommait Gallina Rossa, qui signifie « poule rouge ». Les animali de la farma s'écrièrent alors « Benvinda, velkommen, benvenguda !» Et Mousse ajouta « Fais comme chez toi, Rec, et reste autant que tu voudras. »
Et voilà, c'était ce petit extrait qui vous donne bien, en fait... Alors, contrairement à Bou, quand même, il y a une petite nuance, c'est que dans Bou, elle transforme la langue. Là, elle remplace des mots français par des mots... Tous les mots existent, en fait.
Oui,
elle ne crée pas une nouvelle langue,
oui,
mais elle incorpore des mots de plein de langues.
C'est une autre technique.
Et moi, ce que j'ai trouvé super, alors le conte est super, et puis j'adore en plus comment elle le raconte, c'est à la fin tout le lexique.
Ah oui, le lexique de la fin qui permet de...
À la fin de l'album, vous avez vraiment en fait, tout le vocabulaire qu'elle a employé. Et en plus, elle dit l'origine de ce mot, pourquoi elle a, on comprend un peu pourquoi elle l'a utilisé. Et puis après, les prononciations aussi.
Voilà, tout y est.
Donc moi, je trouve
ça
vraiment
comme pour Bou, je dirais qu'il y a une... C'est très riche, très très riche. Et là, je pensais en lisant ce conte, on a envie de le mettre en scène, on a envie de s'investir là-dessus. Enfin, et en plus, c'est pas la version de base de Petite Poule Rousse. Il y a une vraie surprise à la fin, et c'est très très fort.
Ouais, tout est réussi dans cet album-là. C'est un très très bon album. Je suis complètement d'accord. Puis le dessin de Floris Saint-Val, il n'y a pas de particules, est très très pop, très joyeux.
Très joyeux, voilà.
Et
c'est ça.
Il me fait penser d'ailleurs à des illustrations un peu japonaises des années 70.
C'est vrai.
Le chat, il est le mousse. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est vraiment un très bel album.
Non, c'est une découverte. Et puis, alors j'aime pas dire mot. Si, un outil d'animation, parce que le mot outil est important. Essayez de vous en emparer et lancez-vous parce que ça fait du bien à tout le monde et en premier à vous.
Vous pouvez retrouver du coup le ce que vous avez entendu en fait sur les plateformes en fait de streaming, sur
Cyrus
Live, qui le lit elle-même. C'est dans une collection qui s'appelle Du Lala, d'une langue à l'autre, dans lequel en fait.
C'est moins évident à lire que Bou d'emblée. Moi, je trouvais que Bou on rentrait dedans, mais là, en écoutant Elsa Valentin, on ose après sans problème.
C'est ça. C'est plus les accents en fait. Moi, ce qui me fait peur, c'est de savoir comment dire certains mots dans des langues qu'on connaît.
Mais
c'est pas très grave. Voilà, merci pour cet album. Vous avez un deuxième coup de cœur, et c'est vrai que ce coup de cœur, il est très très beau.
Ah là là, Stéphane Kiel. Kiel, on dit quel?
Kiel.
Rouge, une histoire dans les collines, chez La Martinière. Alors apparemment, je me suis précipitée pour aller voir celui que j'avais sous la main, c'est-à-dire Blanc. C'est une sorte, c'est pas une trilogie, mais la couleur rouge, c'est un mot qui va inspirer Stéphane Kiel pour toute son histoire, toute l'histoire qu'il nous propose d'un jeune garçon qui se trouve dans le sud de la France et qui est amoureux d'une jeune fille qui vient, dont le père loue tous les étés, il loue pendant un long mois la maison d'à côté. Et là, il est très amoureux de cette jeune fille avec qui il a passé son enfance. Il a décidé de lui déclarer son amour, mais un incendie au loin commence à prendre forme et à venir grignoter les collines et donc il n'aura pas le temps, il va être surpris par l'incendie, donc l'année prochaine il lui dira, enfin ça c'est pour l'histoire, c'est une très jolie histoire d'amour et ses premiers sentiments amoureux qui naissent. Et au-delà de ça, on a les illustrations qui sont, j'ai pas été regarder la technique, mais c'est extraordinaire. En plus, à la fois le carton, le papier, on a l'impression que c'est... Enfin, je sais pas, c'est magnifique. Comme si on touchait de la cendre aussi un peu. Alors ça, de la cendre, pas dans le côté destructeur, hein, dans le côté un peu sensuel de la cendre, on va dire. La touche de rouge est partout, le rouge est partout, dans les flammes évidemment, sur les joues du garçon quand il parle à la fille. Stéphane Kiel, dans son texte, va utiliser le mot rouge. La jeune fille s'appelle Garance, hein, qui est un qui est le rouge d'origine de teinture. Et le rouge ne va pas être omniprésent, il va être par touche, comme ça, donné dans cette nature. C'est absolument magnifique, moi je vous le conseille.
Mais il y a une délicatesse dans l'illustration de Stephen King, de toute façon, depuis... Alors, ce qui est fou, c'est qu'il il alterne des illustrations complètement différentes. Parce qu'effectivement, dans sa série rouge, blanc, vert, on a avec beaucoup de détails, en fait, ces touches de peinture. Je ne sais pas trop la technique qu'il utilise.
On dirait du feu.
Ouais. C'est très celui-là, je trouve qu'il est vraiment encore... Le blanc était déjà très, très beau. Celui-là aussi est très impressionnant. Mais à côté de ça, il fait des choses plus au trait, beaucoup plus graphiques, on va dire. Là, il illustrait des super documentaires aussi chez Actes Sud. Notamment, il a fait le Zoo des microbes, qui est très, très chouette, qui est vraiment... qui est très dense, voilà, avec un mélange de couleurs. Enfin,
le zoo des microbes.
Ouais, à chaque fois, il se renouvelle dans des techniques différentes. C'est vraiment.
Moi, je l'ai connu en petit enfant, Stephen King.
Mais
des applications.
Il est dans plein ouais, de formats différents.
Et là, c'est absolument extraordinaire. Alors, il y a en même temps la destruction de la nature, hein, voilà, mais il y a des thèmes un peu graves. Mais c'est un livre magnifique.
Ben moi aussi j'en ai un livre. Alors c'est un livre étonnant et très très drôle, complètement décalé. Ce livre s'appelle Seul à la maison. C'est écrit et dessiné par une japonaise qui s'appelle Naoko Mashida et c'est publié chez Le Cosmographe. Et quand on est chez Le Cosmographe, forcément, on se dit tiens.
On se dit tiens,
il y a quelque chose d'un peu étonnant. Cosmographe, en fait, c'est un éditeur qui publie peu, mais à chaque fois qu'il publie, c'est des ouvrages vraiment remarquables. Notamment eux qui ont réédité notamment des Komagata, voilà, des choses comme ça. Et là, ils ont déniché un petit album là qui est vraiment très très particulier puisqu'on va suivre ce chat et d'ailleurs c'est marrant, ça fait un peu référence à Super Chat. Qu'est-ce que fait Super Chat pendant qu'il dort? Et voilà, et bien là seul à la maison, c'est le chat qui va raconter ce qu'il fait pendant ce temps-là. Alors ça commence comme ça: l'humain est sorti, le chat est seul à la maison, mais où va-t-il? Et là on le voit rentrer dans une armoire. On se demande bien ce qu'il va faire, et quand il ressort d'un tronc d'arbre.
C'est comme les chroniques de Narnia.
Et là, il sort, il se met sur ses deux pattes, parce qu'en fait, le chat marche sur ses deux pattes. En fait, hein, il fait semblant de marcher sur quatre pattes. Et donc, on va le voir et on va passer une journée avec lui. Alors, il va boire un café, hein, il souffle sa tasse brûlante. Après, il va se faire beau, il se fait sa petite mèche du devant. Après, il va à la librairie aussi, parce qu'on ne le sait pas, mais il aime beaucoup les livres, surtout les coins. Ça lui permet de se gratter le bout du nez, de la truffe. Ensuite, il va au cinéma, parce que là, il aime bien se faire peur. Donc, on voit tous les chats qui ont
avec
leurs yeux jaunes. En tout cas, il va vivre sa journée de chat qui est très très complète, très dense.
Hein.
On pense qu'il ne fait que dormir. Il va à la pêche, mais on ne sait pas.
Il mange des mets japonais. C'est normal, on est au Japon.
Bah oui, et puis en même temps, la pêche n'a pas été très fructueuse, donc du coup, il est bien obligé de se rattraper sur un petit sushi. Il commande du thon allégé sans wasabi, hein, parce qu'il fait gaffe à sa ligne quand même.
Ouais, ça marche pas tellement.
Après, il va taper quelques balles au baseball, parce que bah, là aussi, on est au Japon, puis c'est un sport qu'ils aiment bien. Enfin, voilà. En tout cas, on va suivre cette journée. Il y a un côté très...
Le petit trou du cul du chat.
À la fin, en fait, il repart.
Forcément.
Donc, c'est tout ça pour dire que les humains pensent que les chats ne font rien pendant leur journée que dormir, mais pas du tout. Ils ont une journée très, très dense. Alors, cet album, il est vraiment super parce qu'on est avec ce chat, avec cette journée un peu fabuleuse, un peu hors du temps.
Et il a une sacrée bouille, le chat.
Ouais. Et puis, le dessin de Naoko Mashida est vraiment superbe, hein, tout en peinture. C'est assez remarquable comme travail. Oui, c'est que de la peinture. Je pense que c'est de la gouache. Hein. Mais vraiment, c'est un travail remarquable et que je vous invite vraiment à découvrir avec ce Seul à la maison de Naoko Mashida, publié au Cosmographe et traduit du japonais par Alice Uro. On va rester à l'étranger, mais cette fois-ci, on part en Allemagne avec le Paris d'Antiedam.
Antiedam, on dit oui. Je vous avais déjà présenté un de ses livres qui s'appelait En attendant Goliath.
Ouais, qui est super.
Que j'ai trouvé et qui part avec le même principe d'illustration, donc des décors miniatures en carton et des silhouettes bidimensionnelles, hein, avec des couleurs vraiment très sympas. Alors on voit un dessin derrière avec. Enfin, après, c'est à base de photos. Enfin, il a photographié ses réalisations et il les a mises en scène, ce qui donne un réalisme aussi à l'histoire. Et On est chez Astrid Franchet, j'ai oublié de le préciser, sauf que je ne connaissais pas.
C'est un éditeur qui fait beaucoup de choses, en fait, pas forcément que de la jeunesse. Et c'est vrai que dans leur catalogue jeunesse, c'est vraiment le travail... Enfin, moi, je retiens particulièrement le travail d'Antje Dam, qui est unique. Hein. Antje Dam, elle est connue un peu partout dans
c'est
le monde.
C'est une dame, Antje Dam.
Oui. Et en France, donc, elle est publiée par cet éditeur, que je ne connaissais pas avant ses premiers ouvrages, mais c'est vraiment...
En attendant Goliath aussi, ouais, était chez elle.
Ouais. Elle a publié 3 albums en France, et c'est toujours cet éditeur qui l'a édité.
Donc c'est une petite fille qui fait un pari avec un jardinier. Le jardinier est un professionnel, il arrose ses plantes, il les soigne très très bien, il les nourrit. Et la petite fille, dit, elle le fait aussi, mais elle dit qu'il faut... leur parler, qu'il faut s'en occuper un peu comme des enfants, un peu comme des amis surtout. Et ils font le pari que la plante, la petite fille, sera plus belle que celle du jardinier. Donc je vous laisse découvrir ce qui arrive à la fin. C'est un petit régal.
Moi, j'adore le travail d'illustration, vraiment les collages, relief et tout. C'est ça qui fait vraiment la particularité. Quoi.
C'est très très chouette. C'est un univers vraiment très chouette.
Et puis, un dernier petit album coup de cœur, peut-être. Oui, on reste encore avec les chats, décidément.
Ah, les chamouraïs, les 7 chamouraïs. Je lis un tout petit extrait, promis, Monsieur Simon, les 7 chamouraïs. Banzai. Jean-Luc Fromental, donc 365 pingouins. Moi, je suis restée là-dessus parce que c'était... Mais il y a eu d'autres depuis. Christian Roux aux illustrations. Et c'est un conte. C'est un conte, mais il est très très agréable à lire parce qu'il y a aussi, il est un peu en vert, enfin il est en vert, n'ayons pas peur des mots. Le moulin de Maître Haruki, c'est le paradis des souris. Le jour à peine levé, d'une meule joyeuse, le meunier mousson blé en farine neigeuse. Cependant qu'endormis au fond de leur tanière, les petites souris rêvent de blancs hivers. Elles se lèvent à minuit et entament un festin qui finit au matin dans la poudre et le grain. Donc, il y a un dicton qui dit, j'ai tourné trop vite ma page, il y a un dicton qui dit « Souris dans le grenier, richesse à la maison ». Et ce meunier respecte ce dicton, donc il tolère que les souris mangent un petit peu ses grains. Sauf que, alors il leur a dit, surtout n'en parlez pas ailleurs, quoi, parce que franchement, ça va faire des jaloux, ça va pas aller. Et puis, il y a une plus bavarde que les autres qui va se vanter d'avoir une vie magnifique, voilà. Et c'est tombé dans l'oreille de rats qui vont venir envahir le moulin. Et pour s'en débarrasser, le meunier va décider de faire appel à 7 chamouraïs. Je cherche... annonce-t-il, 7 chats forts et braves, libres et sans entrave, prêts à livrer bataille en hameaux, comme en mille, je cherche 7 chamouraïs. Je ne sais pas si cette illustration vous évoque... moi, elle m'évoque Yul Brynner, dans Les 7 mercenaires. Je trouve qu'il y a plein de petits clins d'œil comme ça, et c'est délicieux, c'est vraiment réjouissant.
On sait que Jean-Luc Fromental adore faire des clins d'œil.
Je crois qu'il adorait Yul Brynner.
Sans doute aussi. En tout cas, il adore faire des clins d'œil dans ses textes. Donc, ça ne serait absolument pas étonnant qu'il ait glissé à Christian Roux d'illustrer cette image. Évidemment, il y a plein de
Alors,
références.
Les 7 chamouraïs, il y a une chef. C'est une chatte blanche, tout de noir tacheté, répondant au doux nom de King Kajitsume, en japonais courant, jolie griffe dorée.
Très beau.
C'est magnifique. C'est trop bien.
Et c'est publié
chez Auseuil.
Au seuil jeunesse, tout à fait. On parle de chats, bah retournons-y. Et vous savez que parmi les chats et dans l'histoire de Super Chat, il y a des méchants. À qui on les reconnaît ? On va écouter pour savoir.
Dans les histoires depuis longtemps, il y a toujours des méchants. C'est la règle, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est nous les méchants. Dans les histoires, il y a des gentils. Ce sont nos pires ennemis. Quand on en attrape un, on se frotte les mains. Parce qu'on est méchants. Jusqu'à ce qu'il se mette à pleurer.
ça nous fait rigoler, parce qu'on est méchants. C'est nous les méchants. On est les méchants. Il y a la fin.
Oh non.
Et nous on n'aime pas la fin.
La fin c'est nul.
Parce que pour nous c'est pas marrant.
Non, c'est pas juste.
Parce qu'à la fin on perd tout le temps. Nous les méchants. On est les méchants. C'est nous les méchants. On est les méchants.
Ah, il le fait bien, on est trop bien. On est bien avec ces méchants.
Méchants
sympas. D'ailleurs, c'est marrant, c'est parce que ça ressemble à une autre chanson qu'il a fait qui s'appelait Nous sommes des cannibales, qui était sur son album précédent,
oui.
Mort de rire, qui est vraiment très bien.
Moi,
en tout cas, je vous invite vraiment à découvrir tout l'univers de Pascal Parisot, parce que moi, j'aime beaucoup. Et puis, le voir sur scène, hein, parce qu'avec ses musiciens, ils sont vraiment impressionnants, quoi. Et ben il est temps de continuer notre tour des albums qui nous ont plu. Et on a trouvé une petite thématique, un peu, allez, on s'est dit, tiens, on va faire des albums de rois, de reines, de princesses. Et ça mérite, vous savez quoi? Ça mérite des trompettes. Le roi, la reine, et la
princesse.
Et ben voilà, on est bien, non?
Bah oui.
Ouais. Et ben on va commencer avec la princesse.
Oui.
Et vous nous avez choisi La princesse rebelle se dévoile.
Alors La princesse rebelle se dévoile, c'est le titre de ce conte, on va dire, de Guillaume Guéraud, illustré par Henri Meunier. Mais le vrai titre, c'est La princesse, alors que vous allez trouver en quatrième de couverture, c'est La princesse aime se faire belle et se pavaner, mais la page caviardée lève le voile sur sa vraie personnalité. Donc ils ont noirci. Le principe du caviardage, c'est de noircir une partie d'un texte pour donner un tout autre sens, évidemment. Et quand on noircit ce titre-là, un peu long, mon goût, la princesse, ça donne la princesse rebelle se dévoile. Voilà le principe. Donc on est sur...
Tout l'album est constitué comme ça.
Oui, c'est ça. Il y a le texte original, on tourne la page, et le texte caviardé qui dévoile... un aspect bien différent de cette princesse si parfaite en apparence qui attend forcément le prince charmant, tout ça, enfin voilà. Et donc avec ce caviardage, ça donne... Alors là, c'est sans caviardage. Hein. La princesse se débarbouille étendue dans sa baignoire de perles sous des nappages de crème séduisante. On raconte qu'elle ne pourrait vivre aucune mésaventure inquiétante car un vaillant archange la protège. Et là, on caviarde. Alors, je vous assure que là, c'est du noir, hein, ça y va. La princesse barbouille en noir les pages du conte pour vivre une aventure qui la change. Et au fur et à mesure, on va découvrir que cette princesse s'émancipe vraiment très vite. Elle n'a vraiment pas besoin, elle est très autonome, elle n'a pas besoin de prince charmant pour venir l'aider à faire ce qu'elle a à faire. Elle est très libre et c'est réjouissant aussi de voir cette autre version de la princesse. Quoi.
Et donc, puis la forme est absolument géniale. Enfin, le jeu...
Entre les deux textes, oui,
et
tout à fait.
Que Guillaume Guéraud a fait. Guillaume Guéraud, on le connaît
vraiment
plutôt pour ses romans ados. Il a fait
un peu de transgression, donc là, on est en plein dans la...
Beaucoup de transgression avec Guillaume Guéraud.
Et donc, on est vraiment dans la transgression aussi, totalement. Il est toujours au Rouergue aussi. Hein.
Oui, évidemment.
Oui, voilà.
Bah, c'est un jeu aussi que Olivier Douzou, le directeur du Rouergue, en fait, aime bien jouer avec les mots, jouer avec la forme aussi de l'album. Et là, ça s'y prête tout à fait. Et Henri Meunier, qui est souvent... scénariste,
oui,
là, cette fois-ci, et dessinateur.
Il s'est mis à dessiner.
Oh non, il a toujours dessiné.
Enfin, il s'est mis à dessiner. Moi, je vois ses dessins.
Voilà, sur cet album. Voilà.
Et il y a deux façons de le lire. C'est-à-dire, une première fois, on fait le texte original et le texte caviardé, ou alors, d'un coup, le texte original, et après, on présente l'histoire caviardée, et c'est très, très drôle.
Super. On rappelle le titre, peut-être le titre court.
Le titre court, La princesse rebelle se dévoile. Guillaume Guéraud et Henri Meunier au Rouergue.
Jeunesse, eh ben c'est parfait. Ben moi, je vais continuer avec La Reine cette fois-ci. Ça s'appelle La Reine et les Trois Sœurs. C'est un ouvrage écrit et illustré par Julia Sarda, Julia Sarda.
Julia.
Je ne sais pas, Julia, on va l'appeler Julia. Mmh. Je ne sais pas l'espagnol. Donc, et c'est publié chez Kaléidoscope. C'est un album que j'attendais beaucoup. Et vous savez pourquoi j'attendais beaucoup cet album? Puisqu'en fait, Julia Sarda, elle avait illustré Le Talisman du Loup sur un texte de Myriam Daman, qui était un très bel album publié chez Gallimard. Vous savez, tout noir avec du doré, orange, tout ça, c'était vraiment magnifique. Donc j'attendais avec beaucoup d'impatience son nouvel album. Et il est là, La Reine et les Trois Sœurs, et c'est absolument
Là, elle a fait les deux.
Génial, oui, elle fait tout là. Dans cette histoire, on va suivre les aventures de trois sœurs. Ces trois sœurs, en fait, il y a Franca, la plus grande, et puis ses deux petites sœurs Carmela et Tomasina. Et elles s'ennuient un petit peu, toutes les trois. Il y en a une qui est toujours en train de lire, l'autre s'ennuie, elle regarde le ciel. Et elle se dit, tiens, ce serait bien qu'on arrive quand même à vivre une petite aventure, quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus étrange.
Et puis,
il y a quelque chose qui m'appelle là. Donc, si vous voulez bien, les filles, moi, je vais vous emmener dehors. Donc, elles vont au jardin. Et puis là, il y a toujours l'impression, il y a quelque chose qui l'attire quelque part. Elle a vu dans un rêve une reine. Et puis voilà, il faut qu'elle aille la voir. Donc, elles vont passer la barrière de la maison. Elles vont arriver dans la forêt. Et là, les deux petites commencent un peu à flipper. Tu nous emmènes nous. Voilà. Et puis, quand elles avancent, là, elles découvrent un jardin assez magnifique. Alors, il y a des orties, il y a une petite sœur. Elle se fait piquer, elle a un petit peu mal. En tout cas, elle s'avance dans l'inconnu. Il faut faire vraiment très attention. Et puis, plus elles vont avancer dans cette forêt, plus l'inconnu est de plus en plus présent. Alors, au début, on voit des oiseaux qui volent dessus. Puis, quand on regarde bien l'image, en fait, on s'aperçoit que ces oiseaux, il y en a un qui a une tête de crapaud un peu. Des trucs un peu bizarres. Voilà. Après, ils marchent sur des branches d'arbres. Puis, on voit qu'il y a des petits serpents qui se promènent. Donc, c'est un petit peu inquiétant, hein, un monde un peu où la terre est présente, la nature est présente.
Patibulaire, mais presque.
Voilà. Donc, les petites serres commencent vraiment un peu à flipper, quoi. Jusqu'au moment où, en fait, les trois vont découvrir quelqu'un qui est une araignée, en fait une araignée, une vieille grand-mère, la grand-maman araignée, qui va les accueillir, qui va leur offrir le thé. Puis après, elles vont découvrir le monde des fourmis. En fait, elles sont devenues à la taille des insectes. Là, elles découvrent en fait qu'effectivement, il y a un hommage à Alice qui est très très présent, que ces fourmis sont très très organisées. Hein. Et puis, elles vont suivre après les rats, puisque c'est les funérailles de l'arrière-arrière-grand-mère rat. Et pour ces funérailles, en fait, c'est quelque chose de très beau. Elle a un papillon qui est ouvert sur son ventre et il défile comme ça en musique.
Alors elle moi, je veux dit, ça pour mes funérailles.
Ben, c'est exactement ce que dit l'une des sœurs, justement, Tomasina. Elle dit, moi, je veux aussi un gros papillon sur mon ventre et que mes sœurs jouent du tambour très fort. Et leur voyage va continuer. Elle va continuer dans le fantastique, avec des personnages encore un petit peu inquiétants. Alors, on peut penser aussi à Max et les Maximons. Il y a plein d'univers qui vont se chevaucher comme ça, mais avec son graphisme si particulier, celui de Julia Sarda, qui est absolument génial. Je vous raconte pas la fin parce que c'est vraiment un très beau conte, mais c'est une histoire absolument superbe que je vous conseille vraiment si vous aimez les contes qui vous emmènent ailleurs. Ça s'appelle La Reine et les Trois Sœurs. C'est publié chez Kaléidoscope. Et puis évidemment, si on parle de roi, de reine, surtout de reine, on en a parlé en introduction de cette émission, on était obligé de revenir un petit peu sur Adieu Blanche-Neige de Beatrice Alemagna. C'est un album qui est sorti aux éditions de La Partie, on en a parlé la dernière fois, parmi les nouveaux arrivants, qui, voilà, on sait que c'est des filles qui viennent d'Albin Michel et que du coup, elles ont déjà un catalogue d'auteurs qui est magnifique. Et dans ces autrices, il y a Beatrice Alemagna. Et là, cet album, Adieu Blanche-Neige, c'est un album absolument bluffant où elle va revisiter le conte de Blanche-Neige par le point de vue de la reine. C'est vraiment la reine qui raconte l'histoire, vous l'avez entendu dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure. Et donc on a des doubles pages de texte qui sont racontées par la reine. Et puis après, on a 3-4 doubles pages d'illustration, de peinture plutôt.
Ouais.
Et là, que dire ? On est bluffé parce que Alemagna, on connaît son talent, on connaît ses albums, mais vraiment là, elle passe encore un cap dans la création, dans la créativité. C'est sombre, c'est noir, mais il y a toujours ces petites pointes de rose qui sont présentes. La double page où elle mange le cœur, enfin le cœur supposé de Blanche-Neige. est absolument terrifiante. En tout cas, voilà, c'est un album que je vous invite vraiment à aller découvrir parce que c'est une performance artistique et même la performance d'impression de l'album avec vraiment l'album
oui,
est super bien imprimé.
J'ai cru que c'était une reliure.
C'est un peu la reliure à la Japon. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je crois que c'est un nom réel, mais je ne sais plus comment ça s'appelle.
À l'ancienne.
C'est très très beau. En tout cas, tout est parfait dans cet album-là et c'est un album vraiment qu'il faut découvrir si vous aimez les revisites de contes, ce Adieu Blanche-Neige de Allemagne. Juste un petit mot, vous voulez nous dire deux mots juste sur l'album qu'elle a sorti juste avant.
Juste avant, et on est à l'école des loisirs cette fois-ci, même pas en rêve, cette petite chauve-souris qui va aller à l'école et qui ne veut pas aller à l'école, même pas en rêve qu'elle ne veut pas aller à l'école, et jusqu'au moment où elle crie tellement fort que ses parents se rapetissent d'un coup et finissent par aller à l'école avec elle et à vivre sa vie, sa journée d'écolière. C'est pareil, on retrouve ce rose d'Allemagne, on retrouve cette impertinence aussi, un côté un petit peu étrange.
Coup, complètement
oui,
différent.
C'est un album très très drôle, oui,
qui
vraiment
se raconte très
très,
très,
drôle,
très bien.
Voilà, c'est ça.
C'est déjà un classique pour la rentrée scolaire. C'est-à-dire que je prédis que
il n'est pas sorti.
Il est sorti à la rentrée scolaire.
Oui,
il est sorti en septembre.
Et il
reviendra tous
à
les ans.
Rentrée,
voilà.
Comme un marronnier.
Exactement. Tout à fait. En tout cas, voilà. Si vous connaissez pas bien le travail d'Allemagne, allez découvrir vraiment son travail, qui est absolument magnifique. Allez, on va parler un peu de roman quand même, hein, parce que l'heure tourne quand même, Véronique, et puis on est en retard. Hein, Philippe nous fait hop, des petits grands mots avec les panneaux et tout ça. Allez, vous nous présentez une collection de romans pour les plus jeunes.
C'est une série des enquêtes au poil. On est sur des premières lectures chez Castor Roman. C'est Anne-Marie Despladuc qui est au texte, Anne Dumergue, je ne sais pas où elle est, et Fabien Heucte-Lambert doit faire les illustrations, je pense.
Oui.
Donc Anne Dumergue, elle est soit illustration, je ne sais pas, c'est pas grave. Et donc surprise au menu, alors moi, enfin, là je l'avais présenté il y a un moment, donc c'est toute une série, il doit y avoir 5-6 titres sur ces héros-là, et ces héros, ce sont des vrais romans policiers, hein, j'insiste beaucoup. Il y a Oslo, qui est un inspecteur qui a du chien, il est distrait à l'heure, mais il se donne à fond dans ses enquêtes. Il y a Miss Kiss, Maline, qui est une petite chatonne. Maline est efficace, elle apporte une aide précieuse pour démêler les indices. Et il y a Rex, qui aimerait tant devenir le meilleur policier du commissariat. Il est prêt à tout pour ridiculiser Oslo. Franchement, allez jeter un œil à ces histoires. Elles sont drôles, on s'en fiche que ce soit des premières lectures. Ça fonctionne vraiment très très bien. C'est très drôle. Et il y a une vraie enquête. Hein, d'ailleurs, il y a un vrai suspense, on ne devine pas d'emblée le criminel, enfin voilà, celui que recherche, j'ai déjà perdu son nom, Oslo, voilà. Ça fonctionne, c'est très très drôle, beaucoup de jeux de mots, et franchement, moi j'aime beaucoup vous présenter des premières lectures de cette qualité-là.
On a besoin de premières lectures de qualité qui ne soient pas juste pédagogiques.
Parce que je pense que même les parents qui lisent ça avec leurs enfants vont se marrer.
Donc ça s'appelle Des enquêtes au poil, c'est publié chez Flammarion, co-écrit par Anne-Marie Despladuc et Anne Dumergue et illustré par Fabien Heucte-Lambert. Moi j'avais un livre pour les un petit peu plus grands, c'est-à-dire les collégiens. C'est le deuxième tome de Violette Hurlevent de Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgois. Mmh. Ouh là là, chouchou, coup de cœur.
Violette qui était sur son chien.
J'avais adoré, voilà, sur son chien, sur Pavel. Et on retrouve Violette qui est devenue une vieille mamie.
Non,
si, et elle
comme le temps passe.
Mais oui, et puis elle revient dans la maison de son enfance, et là, elle va re-rentrer dans le jardin, et évidemment, elle retrouve sa jeunesse, et elle retrouve la petite fille qu'elle était, et on va vivre à nouveau une aventure avec Violette.
Ah,
et encore une fois, le dessin de Jean-Baptiste Bourgois est absolument bluffant.
Donc il est très illustré.
D'imaginaire, bah oui, parce que c'est vraiment un livre co-écrit, hein, parce que Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgois travaillent vraiment ensemble. Le rapport texte-image est absolument superbe. Et si vous voulez un roman d'aventure avec un imaginaire, une créativité dans les phénomènes qui vont se passer, si vous aimez les fantômes, si vous aimez les trolls de pierre, si vous aimez l'univers, voilà, des Mourlevat, des De Fombelle, tout ça, je vous invite vraiment à découvrir les deux tomes de Violette Hurlevent. C'est un très très grand coup de cœur que ces deux tomes. Et le deuxième est aussi bien que le premier. Il est palpitant, on est pris de, voilà, avec Violette. On a envie de savoir si elle va réussir à s'en sortir. En tout cas, c'est un vrai, 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 vrai bonheur. Allez, on va finir avec les romans ados et la bande dessinée. Romans ados, vous avez un coup de cœur.
Ah oui, très très gros coup de cœur. Et je suis vraiment scotchée par ce livre et je le savoure tous les soirs. C'est Paradict de Pauline Pucciano. Et on est chez Gallimard, voilà, je vais rallumer mon petit téléphone parce que j'ai mon petit texte à lire, hop, je vais y arriver. Donc, on est en 2071, dans un environnement qui ressemble à Paris. La Terre chauffe, le climat est complètement déréglé et le monde est devenu global, avec un gouvernement global. On parle de la région Angleterre, de la région Allemagne. On va suivre les chemins de trois frères et sœurs. Alvar, un policier tourmenté, Abel, un brillant jeune homme promis aux plus hautes sphères du pouvoir, et Elsie, leur sœur, qui est en passe de gravir l'ultime échelon de la hiérarchie politique et par là même à qui on présente, dans le plus grand secret, une intelligence artificielle spécialement conçue pour, rien que ça, sauver l'humanité dans la destruction. De la destruction, je veux dire. Mais le problème, c'est que cette intelligence artificielle a des méthodes pour le moins douteuses, hein, qui ne sont pas sans rappeler celles du nazisme. Donc, il se trouve qu'Alvar, le policier, enquête sur le meurtre d'un délicat. C'est un être humain appartenant à une espèce fragilisée par la pollution, ayant subi des mutations génétiques. Et ce meurtre n'est pas sans rapport avec cette machine terrible qui devrait résoudre les problèmes de l'humanité. Donc, à ses heures perdues, Alvar va naviguer dans le paradict. C'est en le disant à voix haute que j'ai réalisé que c'était le paradis. Voilà. Un monde virtuel extraordinaire où tous les désirs sont satisfaits, où chaque participant peut créer à volonté selon ses désirs. Cela permet au peuple de tenir sur cette terre qui est devenue tellement hostile. Donc tous les thèmes qui sont abordés sont vraiment captivants, passionnants. Il est terriblement actuel. En plus, je trouve vraiment, j'ai pas obtenu des réponses aux nombreuses questions qu'on peut se poser actuellement, mais il est vibrant, il est réaliste, alors que c'est de l'anticipation, c'est ça qui est terrible. Il n'est pas désespérant non plus. Et vraiment, il y a beaucoup de personnages aussi, pas mal d'acteurs politiques. En général, moi je m'y perds, hein, voilà, je suis paumée. Eh bien, on n'est pas du tout perdu. Le style est d'une limpidité extraordinaire, malgré la complexité de l'histoire. Vraiment, je vous le conseille. Paradict.
C'est un tome unique, du coup.
Oui.
Super. Oui. Donc, vraiment, ça s'appelle Paradict.
De Pauline Pucciano. Alors,
ouais, Pucciano. Elle avait écrit déjà Titania 3.0,
oui,
et 4.0, ouais, ouais, chez Magnard.
Et on est chez Gallimard.
Une vraie dystopie pour ceux qui aiment les dystopies.
Vraiment,
parfait.
Vraiment, vraiment. Il n'y a pas d'âge.
Génial. Et bien, moi, je vais vous présenter aussi mon coup de cœur en roman ado, qui n'est pas du tout une dystopie, parce qu'on en est vraiment dans le monde réel. On va suivre les aventures de Velma et Harold, qui sont le frère et la sœur d'Annie. Annie, qui est la fille du milieu, en fait, une adolescente un petit peu différente, effectivement. Les gens polis disent ça, en fait. C'est une personne différente.
Oui, une différente. Voilà. Oui. On ne sait pas de quoi, mais elle est différente.
Elle a un chromosome en plus.
Oui.
Voilà, tout d'accord, simplement. Et elle est gentille, elle a de la fantaisie, elle a une passion surtout, ce sont les majorettes. Sauf que là, sa prof, qui n'est pas vraiment sympa, vient de décider de la virer des majorettes. Ses parents ne sont pas du tout contents.
Ah bah,
Et vous savez quoi ? Comme Annie Milieu de Émilie Chazeran, eh bah, les éditions Sarbacane, ils ont fait une petite bande-annonce. Alors on va l'écouter comme ça, parce que
d'accord,
ça va être super.
J'ai longtemps cru que tout le monde avait son Annie. Que chaque famille avait quelqu'un qui lui faisait office de soleil.
Tu connais la blague du petit-déj, non ? Bah, pas de bol.
Que c'était ça, la normalité.
Je vous souhaite un herpès génital avec démangeaison, Elodie.
C'est quoi, herpès génital ?
J'arrive pas à croire qu'ils aient viré Annie à moins de 3 semaines du défilé.
Et si on crée une autre équipe ?
T'es complètement cinglée, maman. Tu veux qu'on fasse les majorettes ?
Ah non, je danse pas devant tout le monde.
Moi, j'ai un métier, hein. Je peux pas me permettre.
Vous êtes tous des fauchetons. Vous avez honte, en fait. Eh bien, moi, j'ai honte de vous. Vous êtes prêts ?
Je crois que toutes les bonnes histoires commencent par un amour fou. Même la mienne.
N'oubliez pas, on est là pour s'amuser.
Je vous aime, mes bargerettes.
Et les meilleures d'entre elles, elles finissent avec des fous qui s'aiment.
Mais oui, nous aussi on les aime et on aime ces histoires qui font du bien. Ting. Là. Annie au milieu d'Émilie Chazeran, c'est un très très beau roman, plein de sensibilité, plein d'humour, plein. Moi j'ai vraiment vu voilà, tout le cinéma, parce que là on parlait, c'est une bande-annonce qu'ils ont fait, donc c'est assez rigolo, donc on pense au cinéma. La famille de Little Miss Sunshine, vous voyez,
oui,
qui part dans le bus
bien.
Avec. Bah, on est dans ce genre d'univers. Où il y a une vraie sensibilité, une vraie émotion, mais aussi de l'humour. Et ça, Émilie Chazeran, depuis Fourmi Rouge, elle le fait très très bien depuis La Fourmi Rouge. Vous vous souvenez de ce roman?
Oui, je me souviens de La Fourmi Rouge, mais je me souviens de ses albums sur les fourmis aussi.
Oui, voilà.
Donc, elle aime bien les petites bêtes.
Mais ouais, et vraiment, elle le fait bien. Donc si vous voulez prendre beaucoup de plaisir et puis avoir beaucoup d'émotions, lisez Annie au milieu. C'est un très beau roman d'Émilie Chazeran dans la collection Exprime chez Sarbacane. Eh bien, c'est bientôt l'heure déjà de nous quitter. Ça a été très, très, très vite. On a couru après le temps.
Ouais.
Voilà. Il nous reste quand même une petite bande dessinée quand
même. Oui, quand même.
Hein,
bah oui.
Pour finir cette 37e émission.
La guerrière, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps.
C'est surtout le dernier tome. Bergère guerrière d'Amélie Fléchet et Jonathan Garnier, publié chez Glénat. C'est le 4e volume qui clôt l'histoire. Eh bien, vous savez quoi ? Bergère guerrière va rester dans l'histoire de la bande dessinée comme une des meilleures séries jeunesse. Je le sais, je vous le dis. Non mais, en effet, les aventures de Molly, Liam et Sarah sont absolument superbes. On va retrouver dans ce dernier volume les dernières aventures de Molly et Liam. Vous savez, ils font partie de ce fameux, cette caste des bergères guerrières.
Oui.
Nous sommes dans un monde où tous les hommes sont partis à la guerre. Les femmes ont pris donc les rênes du village, oui. Et elles ont, quelles qui étaient bergères, sont devenues les bergères guerrières.
Et elles chevauchent des moutons, non ?
Oui, elles chevauchent des moutons, tout à fait. Et on les avait connues presque enfants, en fait, Molly et Liam, quand ils ont commencé cette aventure. Ce sont devenus vraiment des aventuriers, des guerriers et des guerrières puissants. Et dans ce dernier volume, la série qui est devenue quand même de plus en plus sombre, de plus en plus noire, dure en fait au fur et à mesure des volumes, se clôt vraiment de la meilleure des façons. C'est un très très beau final que nous offrent les deux auteurs. Moi j'aime beaucoup Jonathan Garnier au scénario. Je trouve que c'est lui qui avait notamment fait aussi la série Momo chez Casterman. Et puis le dessin d'Amélie Fléchet qui est fabuleux sur ce 4e tome, encore une fois, elle fait preuve de beaucoup, beaucoup de talent. C'est plein de couleurs. C'est vraiment c'est une force. Hein. Ce couple fait vraiment une série qui est bien ficelée, qui n'a pas cherché à tirer la série sur d'autres volumes.
C'est quoi le macaron ?
Le macaron, il dit juste fin de l'aventure. Et
ah
puis,
oui,
il y avait
d'accord.
Une petite citation de Télérama qui dit une des meilleures séries jeunesse du moment. Et je suis d'accord. Voilà,
d'accord.
Avec Benjamin Roux. Voilà. Donc c'est ce 4e volume, ça finit l'histoire. Donc si vous connaissez pas cette série, vraiment allez l'écouter, allez la regarder, la lire, tout ce que vous voulez, piquez-la à vos enfants, offrez-la à vos enfants, et après vous la piquez, hein, ça c'est bien.
Ouais. En tout cas, c'est vous allez aussi dans les librairies pour
et dans les bibliothèques, tout à fait.
Voilà,
voilà. On est bien. Chacun prêche pour la
paroisse
de l'autre. Donc c'est très beau.
C'est beau.
Allez, on va finir encore. En musique, comme d'habitude. Véronique, merci pour cette émission.
Merci, monsieur.
On remercie Philippe qui était au son, comme d'habitude. Et puis nous, on se dit à l'année prochaine.
À l'année prochaine,
hein,
oui.
Bonne fête, bonne année, profitez bien de Noël et tout ça. Oui. On va se quitter avec le 3e extrait de Superchat. Ça s'appelle Le blues du méchant. Parce que oui, les méchants ont aussi le blues.
Mais oui.
Ils auraient voulu être gentils, mais ils
n'y
arrivent pas. Voilà, de Pascal Parizeau. Allez, bonne écoute, à bientôt. Lisez beaucoup de livres.
Je suis méchant, y a rien à faire. Je suis méchant, je dois m'y faire. Partout où je vais sur la terre. Je suis méchant à Buenos Aires. Je suis méchant à Vancouver. Mais ce n'est pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que vous auriez voulu faire, capitaine ?
J'aurais voulu être un gentil,
alors,
pour pouvoir faire mon numéro, distribuer des sacs de riz en Éthiopie ou au Togo, en Éthiopie ou au Togo.
capitaine. Peut-être un jour où ça arrivera.
Sauf que je suis tout le contraire. Je suis méchant et j'en ai l'air. Je consacre mon temps à faire.
À faire quoi, capitaine?
Des plans tordus, des mauvais coups. Mais que cela reste entre nous. J'aurais voulu comme l'abbé Pierre.
Qu'est-ce que vous auriez voulu, capitaine?
J'aurais voulu être un gentil, quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, qui donne la soupe aux sans-abri, qui donne des sous aux téléthons, qui donne aux enfants des bonbons. Oui, mais oui, oui, mais oui. Mais non.
Au revoir, capitaine.